À voix nue. Cette semaine, Adila Benedjaizou rencontre Philippe Mangeau. Ce soir, lutter.
Bonsoir Philippe Mangeau.
Bonsoir Adila.
Lors de notre dernière rencontre, vous nous avez raconté comment vous avez appris que vous étiez séropositif. Nous allons découvrir à présent ce que vous en avez fait, car on peut dire que vous avez fait de votre corps et de la maladie qui développe un lieu du politique. Mais avant d'en venir là, je voudrais m'arrêter sur une autre photo de votre Instagram. C'est la tête d'un jeune homme, au profil très beau, qui pose devant un rocher. Comme la photo est en noir et blanc, on a l'impression que le visage a été sculpté dans la roche. Ce jeune homme statufié, c'est vous, en 1986. À l'époque où cette photo est prise...
Je viens d'apprendre que je suis séropo. Je viens de l'apprendre. L'année dernière, j'ai travaillé parce que c'était au programme de Normal Sup sur le livre de sur les années d'Annie Ernaux. Et les photos sont à la fois des relais de cette autobiographie collective qui est la sienne, mais en même temps, c'est des points d'opacité. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de ce jeune homme. Je la regarde encore avec une émotion d'autant plus grande, sans doute, que je la regarde avec les yeux que sans doute mon amie Delphine, qui a pris la photo, avait. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de ce jeune homme. C'est une tête, pour le coup, effectivement très statufiée, très lointaine. Je ne sais pas à quoi il pense. Et peut-être que vous parlez d'Instagram. Hein, c'est une des choses qui m'intéresse en ce moment dans la question de... dans la question des autoportraits. On n'accède jamais, en fait, à ce à quoi pense celui qui est photographié ou qui se photographie. Ce qui est sûr, c'est que la date me rappelle que je viens d'apprendre que je suis séropo. Alors, on en parlait hier. Cette catastrophe, je ne me souviens pas de l'avoir vécue comme une catastrophe. Voilà. Je me souviens d'en avoir parlé très facilement autour de moi, ne serait-ce que pour prévenir mes partenaires ou mes amoureux. Je n'ai pas décidé d'en faire le lieu d'un engagement particulier. C'est-à-dire qu'il m'a fallu beaucoup plus longtemps, en fait, pour devenir un militant. Et d'ailleurs, j'étais très peu militant. Bizarrement, mes histoires militantes ne sont pas des histoires militantes. Je votais à gauche, je me réjouissais quand la gauche passait, j'étais catastrophé quand la droite passait. Voilà. J'ai eu une seule aventure militante qui était lors de la mobilisation contre les lois de Vaquet en 87, l'occupation de la Sorbonne. Et bref, j'avais pas du tout cette pratique militante qu'un certain nombre de mes amis ont pu avoir.
Avant le militantisme, comment on vit dans ces années 80 en séropositif isolé, quand on n'a pas encore rejoint ACT UP ?
Je peux certainement pas répondre par une première personne du pluriel. Je peux répondre en première personne du singulier, pour le coup. On vit en s'arrangeant pour ne pas trop y penser. Voilà. On vit en se réjouissant de voir que ces bilans sérologiques sont encourageants. Parce qu'en fait, on calculait le temps qu'il restait à vivre en fonction du nombre de ces T4, comme on disait, de ces D4, c'est-à-dire l'indicateur de la capacité du corps à se défendre, puisque c'est ça qui est attaqué par le virus. Et vraiment, j'avais un nombre de T4 complètement extravagant. Mais vraiment extravagant. D'entrée de jeu, j'ai eu un nombre de T4 extravagant. Enfin, je me souviens d'une plaisanterie d'ailleurs qui avait été faite par Rosenbaum, qui avait dit « Vous, c'est plutôt la maladie auto-immune qui vous menace que le déficit immunitaire. » Et donc, je suis parti très haut. Donc ça, c'était quand même assez rassurant. Et encore une fois, ma préoccupation principale, c'était de vivre vite, quoi. Alors je ne sais pas dans quelle mesure cette préoccupation de vivre vite était liée au sentiment que ça pourrait ne pas durer, dont je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas véritablement d'y avoir pensé exactement dans ces termes, ou si elle était liée à une sorte d'appétit ou de gourmandise qui pouvait être la mienne, vraiment. Enfin, je travaillais beaucoup, je lisais beaucoup. C'est là pour le coup. La lecture était devenue quelque chose de fondamental pour moi. J'allais énormément au cinéma. J'étais très amoureux, très souvent. Je faisais beaucoup l'amour, j'avais beaucoup d'amis, j'adorais danser. Voilà. C'était une vie très joyeuse. Et j'ai pas le sentiment d'avoir dansé au bord du gouffre. J'avais pas du tout ce sentiment-là. Donc je serais bien incapable, par exemple, de dire que la séropositivité a donné plus de couleurs à ma vie à ce moment-là. Pas du tout. Je pense que ces couleurs, elles étaient là. Elles étaient... Il y avait une ombre qui pesait sur ma vie, mais qui l'empêchait pas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on vit. Et puis je pars en Angleterre, à la faveur de ce projet de thèse, à la faveur aussi du fait que je viens d'avoir la grègue et que c'est pas mal de partir juste après. Également, sans doute, parce que j'étais très amoureux d'un danseur qui s'appelait Jim, qui est mort du sida, qui a été un des grands amours de ma vie, qui était écossais. Et on trouvait ça rigolo de passer un peu de temps en Angleterre ensemble. Il habitait à Paris, mais... Et donc je pars, il est venu souvent me rejoindre. On était un couple où c'était moi qui étais séropo. Lui aussi l'était, mais il refusait de faire le test. On prenait des précautions, simplement. Et c'est lui qui est mort. Et puis, il y a cette année blanche qui a été l'année anglaise. Une année où, brusquement, j'arrête de travailler tout le temps. Je lis du Jules Verne, comme je le racontais hier. Une année où je fais de l'aviron, parce que je suis à Oxford, et que j'ai l'impression d'être dans un film de Ivory. Enfin, une année... très heureuse et une année de vacances. En tous les cas, c'était vraiment une année de retraite. C'était ma première année de retraite. Et en fait, c'est sans doute le moment où je suis devenu séropositif dans ma tête. Et peut-être le suis-je devenu... Alors c'est une histoire que j'ai souvent racontée. Là aussi, il faut toujours se méfier de la façon dont une histoire se pétrifie en légende, comme ça. Mais en même temps, ça a été vraiment constitutif... C'est l'année où est sorti le livre de Hervé Guibert, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, qui est un livre que j'ai lu, mais avant de l'avoir lu, j'ai lu ses recensions dans les journaux, et c'était extravagant. Je me souviens très bien de la belle tête de Guibert dont c'était Actuel ou Globe, je crois que c'était Actuel, dont les yeux avaient été redessinés en doré. C'était le voyant, quoi. Le séropo, c'était le voyant. C'était celui qui comprenait, enfin. Et là, j'ai compris un truc. Je me souviens d'un dossier dans Libération qui s'appelait La vie sida. Et il y avait en accroche une phrase de Guibert qui disait « Sans le sida, je serais déjà mort. » Et ça m'a fait sortir de mes gonds. Mais sortir de mes gonds, vraiment. C'est-à-dire, je me suis dit « Ah oui, donc c'est ça. » La première fois ou la deuxième fois, parce qu'auparavant il y avait Jean-Paul Aron qui avait pris la parole, qu'un PD sidéen parle, il faut qu'il dise que le sida est l'expérience essentielle de sa vie. Et que c'est l'expérience par laquelle le sens va enfin se mettre à circuler. Et toute l'opération Guibert, c'était ça. Et alors évidemment, une fois que j'ai lu, j'avais ça en tête, j'ai lu le livre dans cette perspective, et tout était disponible pour ça. Guibert, cette teigne, cette folle méchante, découvrait enfin la générosité à la faveur de l'expérience de la maladie. Je l'ai relu récemment, je me trouve un peu injuste. Mais en attendant, je l'ai lu pour moi. Ce livre avait été écrit pour moi et contre moi. Et je me souviens très bien, j'étais donc à Oxford, et ACT UP s'était créé à Paris au moment où je passais à la GREG, à la Gay Pride de 89. Et un ami très cher, très important pour moi, qui est Pierre Trévidic, qui est cinéaste et scénariste, est venu me voir et on a passé un pacte autour de cette question-là. Le pacte, c'était qu'on irait à ACT UP. Si bien que la première chose que j'ai faite quand je suis rentré, ça a été de rejoindre ACT UP.
Et vous vous souvenez de la toute première fois où vous êtes allé à ACT UP ?
Ouais. C'est le seul lapin que j'ai posé dans ma vie. La seule fois. Je devais aller... Les réunions devaient commencer à 7 heures, quelque chose comme ça. C'était à l'AGK, dans le 11e arrondissement. Et je pensais qu'à 9 heures, on en aurait fini. Mais, alors évidemment, à ACT UP, on était bavards. On n'était pas très nombreux, hein. On était une trentaine. Et là, pour le coup, c'était encore une table en rond. Après, quand on a été plus nombreux, on est passé au modèle de l'amphi, mais au départ, on était vraiment autour d'une table ronde, quoi. Et il n'y avait pas de téléphone portable. Et la réunion s'est terminée à 11h, j'avais rendez-vous à 9h, quoi. Et donc, j'ai posé un lapin. C'était incroyable. Je parlais tout à l'heure de la fabrication de la légende, c'est la fabrication d'un mythe en même temps, mais je crois que je ne suis pas le seul à en avoir parlé dans ces termes. C'était intelligent. C'était hallucinant à quel point c'était intelligent. Et cette intelligence n'était pas une intelligence qui était instituée par l'université, c'était pas l'intelligence que j'avais observée et qui était réelle, hein, dans des séminaires, dans des cours, etc., etc. C'était une intelligence qui inventait ses propres conditions, son propre lexique, sa propre syntaxe, dans la discussion elle-même. C'est-à-dire que tout le monde était stupéfiant de l'intelligence. Alors, il ne faut pas mythifier complètement, hein, une réunion d'ACT UP, c'est une réunion où il y avait beaucoup de bêtises qui se disaient. Mais ces bêtises-là, d'abord, elle faisait partie de cette invention à laquelle on était invité par le dispositif lui-même. Elles n'étaient pas graves en regard de l'impression que tout ce qui se disait, en tous les cas dans les premières réunions à laquelle j'ai assisté, et je crois que ça a duré très longtemps pour tous ceux pour qui ça a été la première réunion, tout ce qui se disait était stupéfiant. Brusquement, les gens se mettaient à avoir un discours qui était un discours que nous entendions tous comme un discours évidemment politique, en racontant très précisément ce qu'avait été sa dernière heure, leur dernière, les deux dernières heures qu'ils avaient passées à l'hôpital avec des aérosols de pentamidine. J'avais jamais vu non plus cette capacité miraculeuse. Et ça, c'est des choses qui ont été très importantes pour Robin et pour moi au moment où on a écrit le film. Parce que c'était de ça qu'il était question, en fait.
Vous pouvez nous donner un exemple de cette intelligence que vous écrivez ?
Alors, je vais donner un exemple qui est plus intemporel que ça, enfin, qui est plus tardif que mes premières réunions. C'était notamment une intelligence tactique. C'est-à-dire que ce qu'on savait sans cesse à ACT UP, c'était que la politique était un exercice impur. Quand on investissait un laboratoire pharmaceutique et qu'on jetait du faux sang sur la tête des gens, nous savions bien que nous favorisions, que nous donnions des armes à nos interlocuteurs, ceux que nous désignions à l'époque comme nos adversaires, dans leurs négociations avec les pouvoirs publics pour le prix des médicaments, parce qu'ils allaient pouvoir dire au ministère, vous avez vu comme les malades ont envie de notre médicament, comme les malades en veulent, c'est bien le signe qu'il faut l'autoriser très vite et à ce tarif. C'est-à-dire que nous savions que nous faisions leur jeu. On savait les deux choses à la fois. On savait qu'on les emmerdait et on savait qu'on faisait leur jeu. Ça, c'était de l'intelligence. Ça, c'était hallucinant de savoir négocier la vérité de ces deux choses opposées. Et il y avait une conscience absolument permanente à ACT UP de ça. Et ce sentiment-là de très grande intelligence tactique qui faisait que nous pensions sans cesse l'impureté dans laquelle on était, j'ai peine à le retrouver ailleurs. Il en allait de même de notre rapport avec les médias. Quand même, tous les groupes politiques que j'ai rejoints sont paranoïaques avec les médias. Les médias vont nous trahir, les médias diront jamais ce qu'on a à dire, etc., etc. C'était jamais le cas à ACT UP. On savait bien que les médias allaient nous trahir. Mais on avait absolument besoin des médias. Un, parce qu'on était très peu nombreux et que ça permettait de répercuter ce que nous disions, de jouer dans le rapport de force avec nos interlocuteurs. Et deux, parce que une caméra, ça protège. C'est-à-dire, ça protège des violences et ça protège des violences policières. Il y en avait moins qu'aujourd'hui, mais il y en avait quand même. Et ça protège aussi les violences de nos interlocuteurs qu'on chauffait quand même à blanc. Et donc, il y avait ce deal avec les médias. On leur offrait des images clés en main, on leur offrait de la mise en scène. Ils nous offraient de la protection et de la répercussion, enfin de l'écho. Et c'était vraiment un deal. Mais c'était un deal impur, là aussi. On n'avait pas du tout peur d'être trahi. On savait bien qu'au bout du compte, il serait retenu un dixième de ce qu'on dirait. On savait bien qu'on se ferait traiter de fasciste, parce qu'on l'était régulièrement par les médias. Mais c'était quand même ce deal-là qui était là. Ce que j'appelle l'intelligence, c'est cette capacité qu'ACT UP avait de n'être pas empêché par ses propres principes, par ses propres scrupules, parce qu'on avait des choses plus importantes à faire.
Le film 120 BPM raconte très bien cette histoire d'ACT UP, mais comme tous les films, il raconte pas tout, parce que les films sont pas faits pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque dans ce récit auquel vous avez participé, hein?
Non, rien ne me manque si on parle du film. Rien. C'est-à-dire que je tiens absolument au parti pris qui a été le parti pris de Robin, qui était qu'on ne voit pas la vie, on ne voit pas l'autre côté de la vie. On ne voit pas que la vie continue. On ne voit pas ce que c'est que d'aller chez ses parents. On ne voit pas... Voilà. Et je trouve que c'est la beauté du film de Robin. D'avoir cette... d'assumer jusqu'au bout ce choix radical. C'est bien que quand les parents arrivent, ils sont perdus, quoi. C'est pas le seul choix radical, à mon avis, du film, mais je pense que c'est un film sur l'impossible lien entre la chambre où on meurt et la salle où on fait de la politique. C'est un film qui... Je pense qu'on fait un film quand on s'affronte pour s'affronter à une énigme et que le boulot de gens qui font des films ou de gens qui les écrivent, en tous les cas, c'est comme ça que moi, j'ai contribué à l'écriture de ce film. C'est d'essayer d'éclairer tous les recoins en se rapprochant autant que possible de cette énigme, en sachant que de toute façon, elle n'a pas vocation à se résorber. Je ne sais pas si c'est encore... Si la politique peut encore faire quelque chose dans la chambre où on meurt. Voilà. Je le sais pas. En tous les cas, c'était une question qu'il fallait se poser. Donc, alors après, il y a mille autres choses. Hein. En fait, sur l'expérience d'ACT UP, il y a mille autres choses. Il y aurait à raconter ce qu'a été la vie privée à ce moment-là. Et c'est difficile. C'est difficile. Ma vie, c'était ACT UP, vraiment. Il se trouve que j'étais assistant à la fac. Et puis après, comme j'ai pas terminé ma thèse, ça a été ACT UP fondamentalement. Donc, j'ai été prof dans le secondaire, au collège, puis au lycée. Mais ce dont je me souviens très bien, c'est d'abord la mort des amours, la mort de Jim, dont je parlais tout à l'heure. C'est la mort des amis, c'est le temps qu'on passait à l'hôpital, on en passait beaucoup, c'est le temps qu'on passait dans les enterrements, c'est hallucinant quand on y pense. C'est le poids du corps de l'ami qu'on porte dans ses bras, le peu de poids, c'est le sentiment de n'être pas du tout compris par les gens avec qui on vit. Parce que on a une autre vie que la vie d'ACT UP. Et ils savent pas exactement de quoi ils retournent. Ils comprennent pas très bien. C'est le fait qu'on se reconnaît tout de suite dans le métro. Les malades du sida se reconnaissent. On se repère. Ça se voit à la complexion de la peau. Voilà. C'est le fait qu'on continue à vivre, à danser, à baiser. C'est le fait que je suis amoureux de Ricardo. C'est le fait que je continue d'avoir un amant du dimanche. Et puis c'est la chose qui m'incombe aujourd'hui, ou peut-être plus tard, c'est le livre qu'il va falloir que j'écrive un jour, c'est peut-être le seul livre qu'il faudrait que j'écrive, qui est 1997. C'est pas son titre. Vous voulez que je vous raconte le pitch ?
Nous, voilà. Racontez.
97, c'est l'année de Nous sommes la gauche, ça va être l'année où je suis, où je deviens président d'ACT UP. Mais il se trouve que c'est une année où c'est l'année de l'arrivée des trithérapies. Il y avait une, dans les grosses associations de lutte contre le sida, en fait, il y en avait trois qui étaient très importantes. Il y avait AIDE, ACT UP et puis Arcade Sida. Et celui qui avait été le directeur d'Arcade Sida, quelqu'un de qui est aussi un des cofondateurs de AIDE, qui s'appelle Frédéric Edelman, qui est journaliste au Monde, était quelqu'un qui était fatigué, très malade, très très malade, qui avait la réputation d'être un type un peu tyrannique, notamment dans cette association pleine de salariés. Et une des activités de cette association, c'était de faire un journal magnifique qui s'appelait le Journal du Sida, qui était un journal très important parce que c'était vraiment une revue de croisement des spécialités. Il faudra dire un jour tout ce que le Sida a permis d'inventer, tout ce que la lutte contre le Sida a permis d'inventer. Et comme les gens étaient beaucoup morts et comme on savait que Frédéric allait mourir, ils voulaient faire un grand entretien avec Frédéric, et comme ils voulaient pas faire un entretien avec leur patron, ils m'ont demandé à moi de faire l'entretien. Et j'y suis allé, et l'entretien a duré 5 heures. Et on a parlé de tout, mais vraiment de tout, de choses très intimes, etc. Et à un moment, Frédéric m'a dit « Mais non, mais là, tu fais un entretien parce que je vais mourir. » Et c'était une époque quand même où on se mentait pas. Donc j'ai dit, bah oui. Et il m'a dit, détrompe-toi. Et nous savions que les trithérapies commençaient à être administrées. Nous avions eu, on était allés à Vancouver, on connaissait les premiers résultats. Et il est allé chercher 2 bilans sérologiques qui avaient été faits à 15 jours d'intervalle. Et le premier bilan, c'était le bilan de quelqu'un qui pouvait mourir le lendemain. Je pense qu'il avait 3 T4, quoi. Et le deuxième bilan, 15 jours après, il avait 400 T4. Pour vous donner une idée, quand on a 800 T4, on est en parfaite santé. C'est le cas de la majorité d'entre vous, d'entre nous, etc. Et on a continué l'entretien. Frédéric est vivant, aujourd'hui. On a continué l'entretien et je suis sorti de chez lui. Je me souviens, c'était rue de Meaux, bâtiment construit par Renzo Piano. Et je me suis évanoui. C'est la seule fois de ma vie où je me suis évanoui. On pensait tous qu'un jour le sida serait fini. On avait des histoires incroyablement fleurs bleues dans la tête. La fête. Et ça a été une année de mélancolie terrible. Et d'une mélancolie d'autant plus terrible qu'on n'avait pas le droit de s'en parler. La façon dont... La mélancolie, c'était quoi? C'était... Les gens vulgaires diront, vous avez été mélancolique parce que, brusquement, vous n'aviez plus de combat principal. Brusquement, le combat devenait moins digne, etc. Mais ça, c'est des gens vulgaires. La mélancolie, c'était des choses soit très... très intimes. Les morts sont vraiment morts à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a fallu refermer les tombeaux. Auparavant... On était dans la même charrette, quoi. Donc, en 97, j'ai fait le deuil de Jim, par exemple, qui était mort 4 ans auparavant. J'ai fait le deuil de Clouz, qui était un ami très cher, qui avait été fondamental à Act Up. J'ai fait le deuil de Arthur, j'ai fait le deuil... Bon. Ils sont tous morts, d'un coup. L'autre truc, c'est qu'à Act Up, nous parvenaient des nouvelles terribles, comme par exemple ces gens qui s'apprêtaient à mourir, qui vivaient sur la base de l'allocation adulte handicapé, et puis brusquement on leur disait, ah ben non, mais c'est fini là, vous avez trop de T4 pour avoir l'allocation adulte handicapé, alors on leur disait maintenant, retournez au boulot, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire de s'être préparé à la mort pendant des années, et puis brusquement on dit, ah, le retour à la vie normale, vous allez arrêter de nous faire chier. Et puis il y avait aussi les médecins qui comprenaient pas très bien comment, pourquoi on se plaignait, parce que brusquement on avait des répartitions de graisse complètement extravagantes, parce qu'on ne savait pas comment administrer les médicaments. Bref, ça a été une année terrible. Et si je dois écrire quelque chose, ce sera sur la mélancolie de cette année-là. Je crois qu'il y a très peu de gens qui peuvent écrire quelque chose là-dessus, et moi, oui. Et le film n'en a pas parlé.
Merci Philippe Mangeau. Nous vous retrouvons demain pour parler de cette vie que finalement vous devez vivre.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Adila Benedjaizou avec Philippe Mangeau. Avoigny, réalisation Massimo Bellini, prise de son Thomas Robin, coordination Claire Poinsignon. Avoigny s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.